Bien, bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer. Alors aujourd'hui, donc, les polis du cours d'aujourd'hui sont à l'extérieur. Il reste quelques polis du premier et du deuxième cours. Donc si vous n'avez pas eu, il en reste quelques-uns. Vous pouvez les récupérer peut-être à la fin. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Je suis un petit peu en retard dans mon planning, mais la post-perovskite, c'est tout de même une des découvertes les plus importantes des dernières 10 années. Donc c'est peut-être intéressant d'y passer un peu plus de temps. Donc je vous rappelle que nous en étions arrêtés la semaine dernière à des spéculations sur ce qu'on pourrait faire si, concernant l'estimation de la température, en particulier dans le noyau, et aussi les variations latérales de température dans le manteau, si on avait une connaissance précise de la pente de Clapeyron et de sa position dans le manteau inférieur, si toutefois elle existe, la post-perovskite, la transition perovskite en post-perovskite existe effectivement dans le manteau. Donc on avait dit qu'on pourrait en particulier, suivant que la température du noyau est plus chaude ou moins chaude, on pourrait, si on observe une double transition en particulier, donc une transition de la perovskite vers la post-perovskite et plus bas une transition inverse qui se manifesterait au point de vue des vitesses par une diminution de la vitesse, on pourrait penser qu'on est dans une situation où le noyau est relativement chaud. Par contre, si on n'observe pas cette transition, le noyau sera un peu plus froid, donc relativement plus froid. De même, pour une température donnée du noyau, et donc le noyau, bien sûr, est brassé très vigoureusement, donc la température du noyau près de la CMB, c'est un isotherme. Donc ça, c'est simplement parce qu'on a des incertitudes sur la température du noyau qui pourraient être éventuellement précisées si on avait ces informations sur la post-perovskite. D'autre part, donc, pour une température donnée du noyau, on pourrait évaluer des variations latérales de température suivant qu'on est dans une région chaude de la base du manteau, une région froide, on verrait ou non la post-perovskite. Et on s'attend à ne pas avoir la post-perovskite, si on la voit, dans les régions plus froides. Et sans doute ne pas la détecter, enfin, elle ne serait pas présente dans les régions chaudes. Donc, en particulier, si elle existe, on s'attend à la voir dans la zone, l'anneau de vitesse plus grande que la moyenne autour du Pacifique. Par contre, dans les régions des super Pamaches, on s'attend à ne pas la voir. Donc ça avait donné lieu à un petit dessin comme ça, très spéculatif, sur ce qu'on pourrait voir. Donc ici, les zones où on pourrait voir la perovskite seraient plutôt les zones plus froides, donc où les zones de subduction, donc les plaques en subduction pourraient s'accumuler à la base du manteau. Tout ça, c'est bien sûr très spéculatif. Donc, en résumé, la double transition permet d'estimer les variations latérales de température dans la région où est observée la discontinuité sismique, si toutefois on confirme l'observation de cette double transition. Mais donc, ce premier travail de Hernlund et Tal, quand ils ont fait le calcul, ils ont obtenu des variations latérales de température beaucoup trop grandes que ce qu'on peut supposer avoir lieu à la base du manteau. Ils en ont donc conclu que si leurs calculs sont corrects, les variations latérales de vitesse sismique, donc les observations de variations latérales sismiques, ne peuvent être dues seulement aux variations de température. Il faut invoquer la présence d'hétérogénéité chimique. Alors je l'indique parce que ça joue un rôle important dans les recherches des dernières quelques années. Donc ensuite, il y a eu un travail un peu plus rigoureux où, basé sur une estimation qui, à l'époque, donc tout de suite après la découverte de la transition post-perovskite, on avait estimé la pente de Clapeyron à environ 7,5 mégapascal par Kelvin. Et donc, basé sur cette estimation, ces auteurs, Wookie et collaborateurs, ont fait des calculs ab initio, donc à partir de calculs théoriques, qui leur ont permis, suivant différents géothermes, donc différentes variations avec la température supposée dans le manteau, de déterminer à partir de tout ce qu'on savait sur les propriétés élastiques de la pérovskite et de la perovskite, d'estimer les variations de vitesse sismique à la base du manteau. Donc ils ont construit un modèle sismique, donc hypothétique, à partir des informations minéralogiques et suivant plusieurs possibilités de géothermes qui sont ainsi indiquées ici par ces courbes avec des symboles. Et donc, en particulier, ils ont obtenu un modèle moyen qui suit cette courbe de température moyenne au milieu ici. Et donc, on peut comparer ce modèle hypothétique basé sur les connaissances sur la post-pérovskite avec les modèles sismiques réellement, déterminés directement à partir des données sismiques. Et c'est ce qui est fait dans cette étude-ci. Ici, on compare ce modèle de Wookie et al. Qui est noté WOOK, ici en gris, en très gris, donc souligné, qui donc montre un saut de vitesse assez important à la profondeur d'environ 2700 km, environ 3 ou 3,5% d'augmentation de la vitesse des ondes S, et puis une diminution juste à la base pour ce modèle moyen qui correspondrait donc à la transformation inverse de post-pérovskite en pérovskite. Les prédictions, ça c'est les prédictions pour les modèles S comparés à des modèles construits par la sismologie. Vous voyez que c'est qualitativement ça colle à peu près. Il y a quand même d'assez importantes différences. Par contre, pour les modèles P, donc la variation de vitesse ici pour le modèle de Wook en fait correspond à une petite diminution de la vitesse au niveau de la transition, puis après une petite augmentation jusque presque à la base du manteau. Et donc aussi comparé à des modèles sismiques. Et donc ici, comme modèle sismique, vous avez ceux de l'Eurasie du Nord, PWDK et d'Alaska. Et Quito est un modèle un peu différent, avec une diminution de vitesse observée à partir d'un certain niveau dans le manteau et qui aurait été observé dans le Pacifique Ouest. Donc ceci, ce sont des régions correspondant à ces vitesses rapides en moyenne dans les modèles tomographiques et ceci, ce serait un modèle qui correspondrait qui serait à un endroit où serait une des superplumes, la superplume du Pacifique, la superpanache du Pacifique. Et ces autres modèles ici, SPAC et PEPAC, serait aussi au centre du Pacifique. Et donc, ils ont, à partir de ces modèles, ils ont, pour les S, on voit qu'il y a une augmentation de vitesse assez importante. Donc, on s'attend à avoir des observations de phase de précurseur à la phase SCS, donc à la phase réfléchie sur la limite noyau-manteau, qui serait assez visible assez clairement sur les enregistrements. Par contre, ça n'est pas clair pour les modèles P. Et donc, ils ont fait ils ont calculé des sismogrammes synthétiques, donc à partir de ces modèles, avec une méthode de calcul de sismogramme synthétique qu'on appelle la méthode de réflectivité, qui est une méthode qui marche donc dans un modèle de Terre à symétrie sphérique. On résout les équations, on intègre les équations des ondes en fonction de la profondeur. Et donc, on compare ici un modèle déterminé par la sismologie avec le modèle WOOK, donc le modèle synthétique basé sur les données minéralogiques. C'est un calcul comme ça. On s'aperçoit qu'en fait, c'est la PCP qui est déjà très faiblement marquée. C'est l'une des difficultés de travailler avec les ondes P. Et le précurseur auquel on s'attend est pratiquement invisible. Donc, sur des sismogrammes à l'œil nu, on ne voit rien. Il faut faire de la sommation de traces. Et donc, ici, ils ont fait une sommation de traces sur l'ensemble des données synthétiques calculées sur un réseau de stations. Et donc, ils comparent aussi le PREM, ici, donc le modèle de référence, avec ce modèle synthétique et les autres modèles sismiques. Et il constate que le modèle WOOC donne un niveau signal sur bruit très faible, et donc il propose que pour essayer de l'observer, il va falloir mettre au point des techniques plus sophistiquées pour pouvoir vraiment détecter cette discontinuité. Donc à l'époque, ils étaient assez pessimistes sur cette possibilité, et donc ils ont. Par contre, pour les ondes S, comme je vous ai dit, les ondes S, elles sont. L'onde SCS est beaucoup plus. De plus grande amplitude par rapport à la S, donc un niveau signal sur bruit plus important, mais il signale tout de même que le précurseur à SCS ici, la SCS et le précurseur arrivent très près les uns des autres, et donc ils seront aussi difficiles à observer. Donc voilà, donc quelques défis pour les sismologues pour essayer de vraiment détecter ce à quoi on s'attend d'après les résultats de physique des matériaux. Donc pour conclure, les premiers résultats sur la transition de phase pérovskite en post-pérovskite, il y a une grande incertitude sur la pression de la transition, ceci en particulier à cause des méthodes expérimentales qui doivent faire intervenir une référence de pression pour calibrer la pression et donc la profondeur à laquelle se passe la discontinuité. Et il y a aussi des incertitudes assez importantes sur la température. Ensuite, il y a aussi le problème que toutes ces premières mesures étaient faites sur la pérovskite pure Mg, de magnésium pur. Or, on sait que dans la Terre, il y a une certaine proportion d'autres éléments, en particulier de l'aluminium et du fer. Et tout de suite, il y a eu quelques travaux qui ont montré que cela changeait un peu les choses, que, en particulier, l'introduction de ces deux éléments non négligeables dans les composantes du manteau inférieur réduisent le contraste des vitesses entre la pérovskite et la post-pérovskite. Et par contre, il peut aussi y avoir des différences de comportement dans les propriétés élastiques qui font que, par exemple, si on compare la pyrolite, qui est donc le modèle standard de la composition du manteau, hein, comme je vous ai expliqué dans une leçon précédente, c'est le modèle de référence et donc dont on étudie les différentes transformations de phase avec la profondeur en partant du manteau supérieur. Par contre, et le MORB, donc, ce sont les Mid-Ocean Ridge Basalts, ce sont les produits de la fusion dans les rides océaniques. Il a une composition différente de la pyrolite, et ces deux compositions donc, peuvent être contrastées, en particulier si on a à l'idée que quand les plaques s'accumulent à la base du manteau, elles peuvent s'accumuler avec leur croûte et leur manteau supérieur qui serait de structure, de composition un peu différente que la pyrolite. Donc on verra par la suite que les travaux plus récents se sont pas mal concentrés sur l'étude de cette transition de phase dans des compositions plus réalistes que la pérovskite pure Mg. Et donc en particulier, certains travaux ont suggéré qu'on pourrait avoir un contraste négatif pour un saut négatif de vitesse des ondes S dans le MORB et positif dans la pyrolite. Donc voilà. Ensuite, il y a le problème de la largeur de la transition, c'est-à-dire la zone de coexistence entre la pérovskite et la post-pérovskite. Dans les courbes précédentes, j'ai tracé la courbe de Clapeyron comme une ligne infiniment étroite, mais on peut, en général, on s'attend à ce qu'il y ait une zone de transition qui peut avoir une certaine épaisseur où on aurait donc au-dessus la pérovskite, en dessous la post-pérovskite et au milieu une coexistence des deux. Et suivant que cette zone est plus ou moins large, on pourra ou non la détecter sismiquement. Si elle est vraiment très étroite, on la détectera. Sinon, si elle est large, ça conduira à un gradient de vitesse beaucoup plus doux et donc on n'observera pas de précurseur. Je vous ai déjà introduit les deux compositions, contrastées, qui font l'objet d'études intenses actuellement. Donc la pyrolyte, cette composition moyenne du manteau, une composition théorique tout de même, hein, mais assez représentative, avec une grande proportion de perovskite, donc, et aussi du ferropériclase ou magnésovustite. Et donc ici, on voit en profondeur, avec une petite proportion aussi de perovskite. Ça, c'est la perovskite magnésienne, et il y a aussi une petite proportion de perovskite de calcium. Et donc, si la post-perovskite, si la transition de phase se produit dans le manteau, ici, à une profondeur au-dessus de la limite noyau-manteau, on aurait cette zone de post-perovskite. Par contre, dans le morbe, donc, dans cette structure différente, il y a moins de perovskite, de magnésienne, il y a une proportion plus grande de perovskite avec du calcium, et quelques autres phases qui coexistent en profondeur. Donc, une composition relativement différente. Alors, dans les années récentes, les études se sont portées sur l'étude de la transition de phase perovskite post-perovskite dans des compositions minéralogiques plus réalistes, donc la pyrolyte ici et le morbe. Et donc ici, c'est les résultats d'expériences en laboratoire, donc dans la cellule à enclume de diamant, Diamond Anvil Cell, chauffée par laser, Laser Heated Diamond Anvil Cell. Dans ce cas particulier, la calibration de la pression se fait au moyen de l'or. Hein, donc, il y a les échantillons contiennent un tout petit peu d'or qui ne réagit pas avec le reste de l'échantillon et permet de calibrer la pression par comparaison avec des échantillons étalonnés indépendamment. Et donc ensuite, l'étude de ces échantillons par diffraction des rayons X pour voir les différents traits correspondant aux différents composants. Et donc, ce résultat-là, donc, qui a déjà 4 ans, a montré qu'on pourrait, que dans la pyrolyte, donc à gauche, et dans le morbe, on a quelques différences, donc en particulier une transition de phase à plus faible profondeur, hein, à plus faible pression dans le morbe que dans la pyrolyte. Et c'est le résultat principal, et aussi peut-être une largeur largeur de la transition. Ici, c'est donc cette zone ici où coexistent la perovskite et la post-perovskite est sensiblement de largeur différente. En tout cas, dans cette étude-là, il trouve que tout se passe donc à des profondeurs du manteau. Je vous rappelle que la pression de la CMB, c'est environ 135 gigapascal. Donc le noyau est bien à droite de ces. Donc, ici, ils ont trouvé une pente de Clapeyron de 8 mégapascal par Kelvin, donc en accord avec les résultats antérieurs, et une épaisseur d'environ 5 mégapascal, donc c'est cette épaisseur en pression ici ou en profondeur, qui est plus large que les estimations sismologiques qui voient ces précurseurs. Donc si on interprète les précurseurs aux ondes SCS ou PCP en termes de transition de phase, on s'attendrait à une épaisseur qui n'aurait pas plus d'environ 1 mégapascal. Donc ceci, ce serait plus large. Donc ça met un peu en question l'interprétation des résultats sismologiques en termes de cette transition de phase. Voilà. Après, ils ont fait quelques modèles. Ils ont essayé de confronter leurs résultats expérimentaux avec des données sismiques. Donc ici, vous avez donc les données étudiées. C'est des trajets venant de sud-ouest Pacifique à l'ouest, nord-ouest des États-Unis, donc qui échantillonnent à la base du manteau. Donc ce sont toujours ces ondes SCS qui se réfléchissent à la base du manteau. Pour comparaison, l'onde S est indiquée n'échantillonne pas la base, est indiqué ici aussi. Et donc la base du manteau, ceci, ce sont les points de réflexion, échantillonne la région de la superpanache pacifique. Et donc ça, ce sont quelques exemples de données avec des données d'onde S, donc l'onde S et derrière l'onde SCS. Et il voit entre l'onde S et l'onde SCS plusieurs arrivées d'énergie qu'ils sont très ambitieux parce qu'ils les interprètent tous. Et donc voilà ce qu'ils en font. Donc en faisant une sommation de traces et maintenant donc dessinée ici en fonction donc interprétée en fonction des distances à la CMB, donc la limite noyau manteau serait ici. Vous avez une en référence l'amplitude des ondes SCS, donc normalisée à 1 ici, et ici l'amplitude de toutes ces ondes ici qui se manifestent par ces ondulations ici avec une barre d'erreur indiquée, donc c'est le trait noir avec des barres d'erreur indiquées par les traits en pointillés. Le PREM, lui, n'a pas du tout, les prédictions du PREM ne montrent pas de structure ici, ça va tout droit et jusqu'à la SCS. Et donc, ils modélisent ça, et leur modèle qui est indiqué sur la droite est la courbe rouge ici. Donc, ils disent qu'ils prédisent très bien les données, et leur modèle a une structure extrêmement fine, avec plusieurs discontinuités, à une discontinuité négative, une positive B, une autre négative C et une autre négative D. Bon, moi je trouve ça un peu surinterprété, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire en admettant que ceci soit vraiment robuste comme résultat. Donc ils ont interprété, donc ici je répète le même dessin du modèle, donc comparé au PREM qui n'a pas de discontinuité, donc avec ces diverses couches. Et donc ils ont interprété ça en termes de transition de perovskite en post-perovskite dans différentes dans la pyrolite en fait. Et donc dans la pyrolite et dans le morbe. Donc il y aurait une transition ici A, voilà, serait la transition de la perovskite dans la post-perovskite dans le morbe. En B, vous auriez la transition dans la pyrolite. Hein, donc ça, ici, vous avez, ce sont les pentes de Clapeyron de ces deux compositions différentes, avec le morbe étant à moins grande profondeur que la pyrolite. Et donc C serait la transition de nouveau de la post-perovskite en la perovskite, cette transition de haute température plus près de la limite noyau manteau. Et puis cette autre diminution, donc tout près de la limite noyau manteau, il propose que ça pourrait être dû à l'existence de fusion partielle près de la CMB. Alors ça, on en parlera. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui, mais il y a à la base du manteau d'autres phénomènes observés par la sismologie qui sont les zones à des vitesses extrêmement faibles, des réductions de vitesse de l'ordre de 20 à 30% dans les S, qu'on appelle les ultra-low velocity zones, ULVZ, dont je parlerai plus tard. Donc ceci se réfère à ce genre de choses. Alors vous voyez qu'effectivement, un tel modèle peut être intéressant si on croit ces pentes de plan, les résultats expérimentaux, et si on croit le modèle sismique. Mais on arrive ici dans des zones qui sont encore extrêmement... c'est vraiment des zones de recherche encore très, très peu contraintes, disons. Alors, ceci dit, le travail continue, et dans les dernières années, il y a eu quand même de nouveaux résultats. Un nouveau résultat, qui est celui de Tateno de 2009, montre de manière assez convaincante qu'en fait, la pente de Clapeyron pourrait être beaucoup plus grande pour la transition perovskite en post-perovskite, ceci dans la perovskite de magnésie pure. Et elle serait de l'ordre de 13,3 mégapascal par Kelvin. Vous voyez ici, ce sont les résultats expérimentaux avec une très bonne contrainte de cette pente de Clapeyron, car l'étude a été faite avec sur une plus grande un plus grand espace de pression et de température, alors que les premiers travaux s'étaient basés sur simplement quelques points expérimentaux. Donc là, ici, on compare cette pente donc plus élevée avec les déterminations des travaux précédents qui donnaient des pentes moins importantes et une position assez différente suivant les études. Donc, cette étude expérimentale donc nous suggère que les résultats sont plus fiables parce que l'étude a été faite sur une plus grande largeur de température et de pression et parce que leur calibration... c'est pas la température, c'est la pression qu'il faudrait écrire ici. Je me suis trompée. Et donc, la calibration de la pression est faite avec le MGO, qui serait une meilleure calibration. Donc ça, c'est la discussion actuelle dans la communauté. C'est cette histoire de calibration de pression et donc de précision des pressions dans les déterminations. Mais la pente elle-même a l'air assez bien déterminée. Alors, ils en déduisent, si on en croit ces résultats, que la température à la limite noyau-manteau serait 3700 Kelvin, qui est plutôt du côté faible par rapport à la marge, enfin, ou à l'éventail de températures qui ont pu être estimées, qui sont de 3700 à 4200 ou 4300 Kelvin. Donc, si ceci est vrai, cela impliquerait un saut plus faible de température à la CMB et donc un flux de chaleur provenant du noyau plutôt plus faible. Donc, c'est toujours ce nombre qu'on aimerait bien pouvoir déterminer de manière précise, qu'on estimerait ici à 6,6 TWh, alors que certaines estimations vont jusqu'à 10 ou 15 TWh. D'autre part, les choses se compliquent. Ici, ce sont des estimations dans deux compositions différentes, donc de perovskite, celle-ci avec magnésienne avec un peu de fer, hein, 10% de fer, et celle-ci en ajoutant aussi de Al et Si. Et il trouve d'une part des différences dans la profondeur, dans la pression, hein, qui est indiquée en fonction de la hauteur à partir de la limite noyau-manteau. Donc, ici, on va vers la surface. Ici, on est dans le noyau. Et donc, suivant la composition, on voit se décaler les zones de transition de phase. Et aussi, on voit une épaisseur vraiment considérable, de l'ordre de 20 gigapascal, sur la zone de transition, donc la zone où coexistent, ici en vert, la pérovskite et la post-pérovskite. Donc ça, ces résultats sont effectivement problématiques parce que cette largeur de transition ne peut absolument pas expliquer les précurseurs observés par la sismologie. Donc on pourrait avoir une transition de phase post-pérovskite, mais même si elle existe dans le manteau, ce qu'on observe sismiquement serait un phénomène différent. Donc les conséquences, si jamais on aimerait bien tout de même pouvoir réconcilier les résultats sismiques avec les résultats expérimentaux, donc si cette discontinuité correspond tout de même à la transition de phase post-pérovskite, ça implique qu'on a une composition très différente de la pyrolite dans les régions où la discontinuité est observée, puisque les résultats présentés dans cette diapo-là sont des compositions proches de la composition de la pyrolite. Alors donc, encore une fois, cela met l'accent sur l'importance d'étudier différentes compositions qui pourraient exister à la base du manteau. Dans ce cas-là, il suggère que le rapport MGSI, donc des composants importants du manteau, des composants majeurs dans le manteau, serait plus fort. Et donc, il y aurait une proportion de ferropériclase plus grande que dans la pyrolite. Et aussi, ça impliquerait aussi, ce qui impliquerait sans doute, basé sur des résultats antérieurs, une profondeur de transition plus grande et qui pourrait elle-même ne pas exister dans le manteau. Donc, des résultats plutôt pessimistes, mais tout ceci en gardant à l'esprit les problèmes de calibration de la pression. Ils impliquent aussi moins d'aluminium. Donc voilà, donc, le travail continue. Donc certes, je vais montrer encore deux exemples. Des travaux récents où des efforts sont faits pour utiliser des compositions correspondant à des roches réelles. Donc ici, des roches donc, provenant des zénolithes, donc d'affleurements de roches provenant du manteau, un des USA, un d'Italie, et puis une composition de morbe synthétique. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris un échantillon réel, mais ça, c'est peut-être moins grave. Et donc, ils ont essayé de voir comment évoluaient les résultats sur les transitions de phase en fonction de la composition. Donc, ils ont fait aussi des mesures dans la cellule à enclume de diamant chauffée par laser, dans le domaine de température, ici 3550 à 3600 Kelvin, et donc dans ce domaine de pression près de la zone, près de la limite noyau-manteau qui est indiquée ici par le pointillé. Et donc vous voyez, ici c'est la profondeur de la transition dans la pure MG, et vous voyez que suivant que les résultats obtenus pour ces différents échantillons qu'on peut considérer comme naturels s'écartent pas mal de ce qu'on peut mesurer sur la pérovskite MG. Et ceci est résumé ici dans ce diagramme qui donne, en fonction de la composition, donc à partir de la MG, la pérovskite MG pure, avec une composition qui contient une proportion d'aluminium et de fer de plus en plus importante, en fonction de la pression. Ici, donc, encore une fois, ça, c'est la limite noyau-manteau. Où observerait-on la transition? Comment se comporterait la transition pérovskite-post-pérovskite? Donc, ici, à pression plus importante, la post-pérovskite. La pérovskite, ici, a des pressions moins importantes et une composition avec plus de fer et d'aluminium et une zone donc de mixte assez importante. Et donc une des conclusions, c'est que si on considère une composition pyrolytique typique, tant qu'on est à la base du manteau, on aurait surtout de la pérovskite et une coexistence de pérovskite et de post-pérovskite, mais très peu de post-pérovskite pure. Et on remarque aussi que pour observer la post-pérovskite, il faut une composition appauvrie en fer. Il faut être de ce côté-ci du diagramme. Voilà. Donc, et un dernier résultat qui vient d'être publié a aussi fait des comparaisons basées sur une étude expérimentale également, donc toujours le même genre de technique avec la cellule à enclume de diamant et la diffraction des rayons X. Donc dans trois compositions encore, la pyrolite, une olivine, donc une olivine qui donc est la composition qui donne lieu à la pérovskite dans le manteau inférieur, et la pyrolite ayant donc ces autres éléments à rajouter à l'olivine, et dans une composition correspondant à disons aux roches qui proviennent des rides océaniques. Et on voit on voit des résultats qui dépendent très fortement de la composition. Et encore une fois, l'olivine pure donne une transition de phase assez abrupte, hein, donc une zone de coexistence des deux phases très relativement étroite, et donc un peu au-dessus de la limite noyau-manteau qui est ici là. Marqué par la différence entre le blanc et le gris. Par contre, pour la pyrolite, ça se passerait, tout se passerait dans le noyau, donc on ne verrait pas cette transition. Donc, une des possibilités, si la post-pérovskite existe dans le manteau, ce serait qu'elle pourrait correspondre à une composition de morbe. Mais là encore, il y a un problème pour la comparaison avec les résultats sismiques, c'est que la transition est un peu trop large. sur un domaine de profondeur beaucoup plus trop large pour vraiment pouvoir être observé par un précurseur à l'onde SCS en particulier. Donc il résume tout de même le résultat comme quoi les seuls, donc ça c'est des résultats des auteurs précédents, mais on peut se concentrer sur ce diagramme-là, des systèmes à multi-composants. Donc les gens étudient, après avoir étudié la perovskite pure MG, ils étudient les systèmes binaires avec soit du fer, soit de l'aluminium, et les systèmes maintenant plus réalistes, multi-composants. Et d'après les résultats de ces auteurs-là, la pyrolyte est hors de question, ça passe dans le noyau, et la composition morbe aurait une transition de phase dans le manteau, mais trop large. Alors peut-être qu'en rajoutant les autres composants, la Herzburgite en particulier, on pourrait peut-être tout de même observer une transition. Donc en conclusion, il reste de très grandes incertitudes. Donc cette découverte de la post-perovskite en 2004 a changé considérablement en fait ce domaine de recherche, et donc en particulier parce que on avait donc déjà ces observations sismiques avec cette discontinuité au-dessus de la limite noyau-manteau, mais on n'est pas encore en état de vraiment pouvoir conclure. Il reste des grandes incertitudes sur la pression de la transition, l'épaisseur de la condiscontinuité et la pente de Clapeyron. Donc, résultats récents, on montre une pente de Clapeyron plus élevée, mais ceci doit être confirmé. Les résultats montrent l'importance de la composition. Et ceci dit, ce qui se dégage actuellement, c'est que les régions où la discontinuité sismique est observée, si elle correspond à la transition de phase, elle pourrait être enrichie en morbe, ce qui correspondrait bien à l'idée qu'on se fait de ces plaques en subduction qui vont donc qui atterrissent à la limite noyau-manteau en fin de course, si j'ose dire. Et donc qu'on observerait plutôt autour du Pacifique. Donc ici, pour vous rappeler, on avait ces régions rapides et ces régions lentes avec des comportements sismiques de vitesse sismique assez différents, correspondant à ces deux grandes régions à la base du manteau, les deux superpanaches et la zone rapide, l'anneau rapide autour du Pacifique. Voilà. Donc là, je vais passer au sujet suivant, qui est l'anisotropie dans le manteau profond. Donc, comme je change de sujet, je vais faire une petite pause. Si vous avez une question ou des doutes sur ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est le moment de poser.
S'il vous plaît.
Oui.
Je peux poser une petite question.
Oui, rapide.
Oui, rapide. Je vois tout l'intérêt qu'il y a à regarder le manteau profond avec le noyau. Est-ce qu'il y a les mêmes études sur le manteau supérieur et la croûte?
Oui, mais dans le manteau supérieur, dans la croûte, on a beaucoup plus de certitudes, si vous voulez. J'en ai parlé au début, dans mon premier cours. On a vraiment la certitude que les transitions de phase à 400 km et à 660 km correspondent bien aux discontinuités sismiques qu'on observe. Et c'est aussi un domaine de pression et de température qui est beaucoup plus mieux accessible par l'expérimentation. Donc des résultats beaucoup plus robustes dans cette zone-là, si vous voulez. Et bien sûr, dans la croûte, il y a aussi des études qui se font à des pressions et températures encore plus faibles, qui c'est de plus en plus facile expérimentalement, si vous voulez. Donc on a vraiment une connaissance par comparaison, on a une connaissance vraiment excellente des températures et des compositions dans la zone de transition. On n'a pas puisque ces transitions de phase sont dans l'olivine, si vous voulez, dans la phase olivine, et que la composition n'est pas de la pure olivine, il y a encore quelques petits flottements sur la proportion exacte d'olivine et d'autres composants dans le manteau supérieur. Et donc tout ce qu'on dit sur le manteau inférieur comporte ces incertitudes. Mais pour ce qui est des transitions de phase dans l'olivine Et leur association avec les observations sismiques, c'est vraiment un résultat qui est vraiment bien établi. Ah ben ça, je ne sais pas si c'est un autre sujet. Voilà. Oui, vite.
Est-ce que l'on peut dire que les deux dernières diapositives que vous avez commentées militent en faveur de la notion de cimetière de plaques ?
Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que si la composition qui serait la composition favorite pour avoir la transition de phase dans le manteau, c'est une composition avec donc plus proche de la composition du morbe. Le morbe, c'est ce qui retombe avec les plaques, hein, dans la partie supérieure des plaques. Et si ça retombe jusqu'en bas, on aura certainement une composition qui tendra à être de ce type-là. Donc tout ça, c'est assez cohérent tout de même. Hein. On n'a pas de certitude, c'est encore très flou. Mais ce n'est pas complètement n'importe quoi, si vous voulez, pour l'instant. Voilà. Bon, je vais continuer. Donc, on va parler de l'anisotropie maintenant, parce qu'il y a aussi des observations d'anisotropie à la base du manteau qui ont aussi à voir avec la post-perovskite et qui sont intéressantes. Mais donc, pour parler d'anisotropie, il faut que j'introduise le sujet, parce que c'est un sujet assez complexe. Donc, je vais passer un peu de temps à expliquer. Donc, un milieu anisotrope, c'est un milieu dans lequel les ondes, n'importe quelles ondes, mais pour ce qui nous intéresse, c'est les ondes sismiques, se propagent avec des vitesses différentes dans des directions différentes, ou suivant aussi la polarisation des ondes, la vitesse peut être différente. Donc, les causes principales de l'anisotropie sismique observées sont de deux sortes. L'anisotropie intrinsèque, qu'on appelle LPO pour Lattice Preferred Orientation, c'est l'anisotropie résultant de l'anisotropie des cristaux eux-mêmes, hein, donc l'anisotropie microscopique qui ensuite se manifeste au niveau macroscopique. Mais il y a aussi, donc, dans un écoulement, en partie, hein, dans un écoulement comme on peut penser, le manteau qui s'écoule en provoquant le mouvement des plaques, les cristaux anisotropes vont s'aligner dans une direction préférentielle et donc vont donner lieu à cette anisotropie à l'échelle macroscopique. Mais il existe aussi un autre type d'anisotropie qu'on appelle anisotropie extrinsèque ou SPO, Shape Preferred Orientation. C'est le cas où vous avez par exemple un empilement de couches, un empilement de couches de propriétés élastiques différentes, des couches plus rigides avec des couches moins rigides, alternées, vont aussi vous donner des vitesses différentes suivant que vous propagez le long de la direction des couches ou perpendiculairement à la direction des couches. Il y a aussi le cas où vous avez des inclusions fluides orientées, donc par exemple des inclusions fluides avec ellipsoïdales, avec un grand axe beaucoup plus grand que le petit axe. Et là, si ces inclusions fluides sont orientées, par exemple, dans un écoulement, vous pourrez aussi avoir une anisotropie, mais cette anisotropie n'est pas due à l'anisotropie des cristaux, c'est une anisotropie extrinsèque. Donc il y a déjà ce problème, c'est que si on observe de l'anisotropie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Est-ce que c'est de l'anisotropie intrinsèque ? Est-ce que c'est de l'anisotropie extrinsèque ? Ou est-ce que c'est une combinaison des deux ? Donc quelques équations, je ne vais pas en mettre trop, mais quand même. Donc dans un milieu isotrope, on a la loi de Hooke qui relie l'élasticité linéaire, hein, qui relie les contraintes, donc le tenseur des contraintes marqué ici par sigma ij, c'est un tenseur 3-3, lié aux déformations qu'on note epsilon ij par une relation linéaire, c'est la loi de Hooke. Hein, donc on écrit ceci comme cela, avec ici la convention de notation qui est que quand le même indice se répète, ça veut dire qu'on fait la somme epsilon 1,1 plus 2,2, epsilon 2,2 plus epsilon 3,3. Le delta, c'est le delta de Kronecker, égal à 1 si i égale j, égal à 0 si i est différent de j. Ici, c'est l'expression qui relie les déformations au déplacement. Hein, donc, ce n'est pas des u ici, ça devrait être des x. Hein, c'est les directions, il va falloir que je corrige ça. C'est d de uj sur d de xj plus d de uj sur d de xi. C'est la définition des déformations. Et donc là-dedans, vous avez les modules élastiques donc, qui sont ici exprimés. Ce sont les paramètres qu'on appelle de lamé, lambda et mu. Mu, c'est le module de cisaillement qu'on a déjà rencontré. Et lambda est relié au module de compressibilité par cette relation Donc ils sont interchangeables, hein, soit on peut toujours exprimer l'élasticité en fonction soit de lambda mu, soit de kappa et mu. Et puis bien sûr, les vitesses sismiques aussi, qui font aussi intervenir la densité, comme nous l'avons déjà vu, donc la vitesse des ondes S qui ne dépend que du modèle de cisaillement, et la vitesse des ondes P qui dépend aussi du modèle, du module de compressibilité ou de paramètres de Lamé lambda. Donc, ça, c'est le cas simple, hein, le cas d'un milieu isotrope. Par contre, dans le cas général, le cas plus général est le cas d'un milieu anisotrope où les vitesses donc, peuvent être différentes dans différents... ceci s'exprime par une relation entre, toujours linéaire entre les déformations et les contraintes, mais qui fait intervenir un tenseur élastique, CIJKL, qui est où il y a beaucoup plus d'éléments indépendants. En fait, il y en a 21 à cause de symétrie. On peut avoir jusqu'à 21 éléments indépendants. Alors, inutile de vous dire, autant il est déjà difficile de bien déterminer les vitesses sismiques et dans le cas isotrope, hein, où on a que deux paramètres, une vitesse P et une vitesse S. Si on a un milieu complexe, on aura beaucoup de mal à vraiment pouvoir résoudre à chaque point de la Terre les 21 éléments indépendants du tenseur des moments, du tenseur élastique. Et donc, inutile de dire qu'on va essayer de simplifier le problème. La nature nous aide dans ceci. Avant d'en parler, je veux dire que cette vitesse qui dépend de la direction, on la détermine en résolvant cette équation qui s'appelle l'équation de Christoffel, qui est le déterminant de ici n, i, nj, ce sont les coefficients directeurs de la normale au front des ondes, et vn, c'est la vitesse qu'on cherche dans la direction de cette direction de propagation. Donc on a un système d'équations à résoudre, donc un déterminant annulé, donc un système 3-3, hein, ça se résout un système 3-3, donc il y a trois valeurs propres qui vont donner des vitesses dans la direction qu'on cherche, trois vitesses, une vitesse d'onde P et deux vitesses d'onde S. Donc dans un milieu anisotrope, on a toujours dans chaque direction une certaine vitesse pour les ondes P et deux vitesses d'ondes S, donc deux ondes S différentes qu'on appelle la biréfringence. Alors, l'anisotropie extrinsèque elle-même s'exprime de manière plus simple, on n'a pas besoin de 21 coefficients pour l'exprimer. En fait, on a besoin de 5 coefficients simplement qui indiquent, suivant la direction de propagation, si vous êtes le long de l'empilement, hein, si on considère un empilement de couches, vous avez une vitesse des ondes P, ici c'est des ondes P, donc des ondes de compression dans la direction de propagation, et deux ondes S perpendiculaires à la direction de propagation, et deux vitesses ondes S ici. Et puis, si la direction de propagation est perpendiculaire à l'empilement des couches, vous allez aussi avoir une autre vitesse P et les vitesses S1 et S2. Et donc, en tout, si vous comptez, vous avez 5 paramètres indépendants qui, en général, sont aussi exprimés en fonction de ces... en sismologie, on utilise souvent ces 5 coefficients qu'on appelle les coefficients de Love qui se rapportent plus facilement aux observations qu'on fait. C'est-à-dire, les coefficients L et N se rapportent aux vitesses des ondes S polarisées verticalement, ici SV, et les ondes S polarisées horizontalement. Les deux mêmes CEA se réfèrent aux ondes P polarisées verticalement et aux ondes P polarisées horizontalement. Et puis, eta, c'est un paramètre intermédiaire de propagation, de polarisation intermédiaire. L'axe de symétrie, bien sûr, peut être incliné. Ici, c'est dans un référentiel où les couches sont horizontales, mais l'axe peut être incliné. Et dans ce cas-là, bien sûr, on a deux paramètres supplémentaires qui sont les angles qui définissent la direction de la normale à vos couches. Donc, il y a deux angles. L'orientation s'exprime grâce à deux angles de l'air. Donc, ceci est exprimé ici, peut-être graphiquement un peu mieux. Donc ici, c'est l'axe de symétrie est vertical. Vous avez un axe de vitesse, une vitesse dans, dans le plan perpendiculaire, vous avez un axe de symétrie hein, dans ce cas-là. Une façon d'appeler cette anisotropie, il y a plusieurs façons d'appeler ceci. Donc, c'est anisotropie radiale, on l'appelle aussi isotropie transversale. Et donc, l'abréviation, une des abréviations utilisées en anglais, c'est vertical transverse isotropy. C'est isotropie transverse verticale, axe vertical. Si vous inclinez l'axe, donc avec deux angles en plus, hein, l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale θ, et puis un azimut A, ici, et donc ça correspondra, on appellera ça le tilted transverse isotropy, donc isotropie transverse inclinée. Bon. Mais vous voyez que ces systèmes sont relativement simples, il y a relativement 5 ou 7 paramètres seulement par rapport à 21. Bon. Pour l'olivine, l'olivine qui donc est le constituant principal dans le manteau supérieur, les cristaux, on a une situation différente, on a une situation où le cristal lui-même est anisotrope. Donc, c'est un cas de LPO, Lattice Preferred Orientation. L'axe, ici, donc vous avez trois axes, les axes du référentiel, l'axe A, B et C. L'axe A est l'axe rapide, c'est aussi pour l'olivine dans le manteau supérieur, une direction de glissement dominante. Mais les vitesses, l'anisotropie est très forte. Pour les ondes P, les vitesses varient de 9,89 à 7,72. Donc, suivant les axes, ici, 7,72, c'est une différence de 22%, donc au niveau du cristal, d'un seul cristal. Vous vous rendez bien compte que pour observer l'anisotropie au niveau sismique, il faut déjà que l'anisotropie cristalline soit très forte, parce que dans un milieu réaliste, vous aurez des orientations un peu aléatoires, qui seront peut-être alignés dans un écoulement, mais on n'aura jamais tous les cristaux alignés. Donc l'anisotropie macroscopique qu'on observera sera bien inférieure à cette anisotropie microscopique. Donc, mais l'olivine est très anisotrope. Donc voilà, on peut toujours, mais si l'orientation donc, de tous ces cristaux est aléatoire, au niveau macroscopique, on peut avoir un milieu isotrope. Par contre, si on est dans un milieu où il y a des formations, telles que le cisaillement, on peut induire une orientation préférentielle des axes de symétrie. Et donc, les cristaux vont s'aligner dans une certaine direction, préférentiellement dans la direction de l'écoulement ou proche de la direction de l'écoulement. Et donc, on observera l'anisotropie au niveau macroscopique. Donc, comme l'olivine est très anisotrope, ça nous aide. En plus, donc, c'est un système hexagonal, donc relativement simple à exprimer. Alors ici, c'est un peu compliqué, mais je vais montrer quelques diagrammes comme ceci quand je vais parler du manteau inférieur. Donc comment on visualise ce tenseur élastique ? Donc, pour les ondes P, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une projection de chaque point sur ce qu'on appelle l'hémisphère supérieur. Donc vous avez un point à l'intérieur de la Terre et une direction de propagation hein, qui est définie ici par la direction que vous pouvez définir par son inclinaison et son azimut. Et vous projetez tout ça sur un plan. Et donc maintenant, ce plan, vous le regardez du dessus. Et la façon dont on interprète, ici, l'axe 3 qui était ici vertical, il est maintenant donc au centre, alors que les axes horizontaux 1 et 2 sont au bord. Et donc ici, dans ce modèle-là, vous avez donc une vitesse des ondes P qui est plus grande selon l'axe 2 que selon l'axe 1. Donc, maximale selon l'axe 2, minimale selon l'axe 1, donc dans le plan horizontal, et intermédiaire suivant l'axe vertical. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est penser que l'axe vertical est au centre et l'axe 1 est vers le nord, vers le haut ici, et l'axe 2 vers le côté. Pour les ondes S, il faut en plus donc de la, l'amplitude de l'anisotropie, il faut aussi indiquer la direction de l'axe rapide qui est indiqué ici parce que donc il y a une vitesse rapide et une vitesse lente, hein, il y a deux ondes S, et donc on indique ça par des directions des tirets comme ça. Donc c'est un peu compliqué à interpréter, mais je vous en montrerai, mais il ne faut pas regarder les détails. Ce qu'il faudra, c'est simplement faire la comparaison entre différents dessins de ce type. Donc l'anisotropie radiale, je vous en ai déjà parlé. Elle s'exprime en fonction de 5 paramètres si elle est à l'axe vertical. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anisotropie azimutale, donc maintenant on parle d'anisotropie sismique, où la vitesse dépend de la direction de propagation dans le plan horizontal. Et donc on exprime en faisant intervenir l'azimut, hein, donc c'est l'angle par rapport au nord, hein, en général compté dans le sens des aiguilles d'une montre, de la direction de propagation par rapport donc, au nord. Et donc on peut montrer que dans le manteau supérieur, avec donc, l'olivine étant l'élément principal, donc, avec sa structure cristalline particulière, ce qu'on s'attend à voir, c'est une dépendance en 2 psi et 4 psi des vitesses sismiques. Et donc ici, les coefficients sont des combinaisons linéaires des éléments du tenseur élastique. Et voilà, c'est relativement simple. Ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est le manteau supérieur qui est le mieux connu et qui nous inspire pour l'étude du manteau inférieur dont je veux vraiment parler, mais je vais dire quand même quelques mots sur le manteau supérieur et ce qu'on en déduit, puisque c'est mieux connu. Si vous avez donc une cellule de convection hypothétique, ici marquée comme ceci, avec un courant ascendant ici, un courant descendant ici, donc ici ce sera plus chaud, ici ce sera plus froid, et puis le retour horizontal en haut est peut-être un peu moins marqué en bas, donc une cellule de convection hypothétique, vous vous attendez à voir les observations suivantes du point de vue sismique. Vous allez avoir au-dessus des courants montants, donc plus chaud que la moyenne, vous allez avoir des vitesses plus lentes, donc vous allez avoir du rouge. Ici, c'est les vitesses moyennes, les vitesses, la partie isotrope des vitesses. Ici, dans le courant descendant, vous allez vous attendre à voir des vitesses rapides, plus rapides, parce que c'est plus froid, et des vitesses moyennes sur la partie horizontale. Par contre, si vous regardez l'anisotropie radiale, qui donc pour les ondes S, qui sont les ondes, pour la vitesse des ondes S, qui est ce qu'on observe le plus facilement dans le manteau supérieur grâce aux ondes de surface, le paramètre le plus important, c'est le rapport des vitesses des ondes S polarisées horizontalement aux ondes S polarisées verticalement. Et ce rapport, on l'appelle xi, c'est le carré de ce rapport de vitesse. C'est aussi L, n sur L, si on revient aux notations de Love. Hein, et vous vous attendez à avoir des variations latérales de ce paramètre qui sont où, dans les régions de courants horizontaux, vous allez avoir la vitesse des ondes polarisées horizontalement supérieure à celle des ondes polarisées verticalement. Donc vous aurez ici du bleu. Hein, VSH supérieur à VSV, ça va être du bleu. Par contre, aussi bien dans les courants montants que dans les courants descendants, vous allez avoir du rouge parce que vous allez avoir xi va être inférieur à 1. Je ne sais pas si cette échelle dit vraiment ça, mais vous allez avoir donc une manifestation différente au niveau de l'anisotropie radiale, suivant que vous êtes dans une région de courant montant ou descendant, ou suivant que vous êtes dans une région de courant horizontal. Donc déjà, par la comparaison de ces deux quantités, si vous arrivez à extraire donc, des données sismiques l'anisotropie radiale, ou ce paramètre d'anisotropie radiale, vous allez pouvoir déterminer où est le courant montant et où est le courant descendant. En plus, il faut pouvoir orienter la cellule de convection, hein, et ça, c'est l'anisotropie azimutale qui va nous le donner. Et ici, par exemple, si l'axe des vitesses rapides est dans cette direction-là, on peut penser que l'écoulement va être, au premier ordre, va être orienté comme cette figure l'indique. Donc, la combinaison des informations données par les vitesses isotropes, l'anisotropie radiale et l'anisotropie azimutale permettent de nous renseigner, si tout est vraiment bien contraint, sur les écoulements dans le manteau. Bon, il faut aussi, bien sûr, relier l'anisotropie sismique à aux propriétés des cristaux et comment ils s'alignent, donc les plans de glissement et l'alignement dans un certain champ de contraintes. Mais disons qu'au premier ordre, l'idée est que la sismologie et l'étude de l'anisotropie permet d'avoir des renseignements un peu de manière indirecte sur la dynamique, sur des processus dynamiques. Donc l'étude de l'anisotropie, bien que très difficile, en vaut le coup. Donc, et en fait, l'anisotropie dans le manteau supérieur a été observée depuis très longtemps et correspond bien à ce à quoi on s'attend par la tectonique des plaques. Donc ici, vous avez donc on est toujours dans le manteau supérieur hein, pour un moment. On a ici une ride avec les deux plaques qui s'écartent, un écoulement qui monte du manteau ici, plus profond, et donc la lithosphère continentale ici qui se refroidit. Et ce qu'on observe, en fait, on a observé ça déjà dans les années, dans le début des années 70, donc tout de suite après la confirmation de la tectonie des plaques, qu'on avait effectivement les ondes P. Ici, ce sont les vitesses PN, c'est des ondes P. L'onde PN, c'est une onde P qui se propage juste sous la limite croûte-manteau. On observe des variations de vitesse donc périodiques ici, et la direction du mouvement des plaques est indiquée ici par ces flèches, donc un maximum de vitesse dans la direction des plaques et un minimum dans la direction perpendiculaire à la direction des plaques. Et ceci donc est en accord avec tout à fait en accord avec la présence d'anisotropie donc de cristalline hein, microscopique due à LPO, due à l'alignement des cristaux d'olivine dans la lithosphère. Elle-même, cet alignement étant lui-même dû au cisaillement provoqué par le mouvement des plaques. Et la direction rapide de l'olivine, qui est la direction 1-0-0, donc c'est l'axe, je ne l'ai pas dit, mais donc c'est l'axe X, l'axe des X, si vous voulez, l'axe 1 dans un référentiel cartésien, s'aligne avec la direction de la plaque. L'anisotropie des ondes de surface confirme qu'on observe donc l'anisotropie ici azimutale des ondes de surface confirme ceci. Vous regardez ici, ça c'est un modèle tomographique qu'on voit en rouge, et en jaune et bleu, donc avec la ride médio, donc le Est Pacifique ici et Antarctique, les zones ici en arrière des zones de subduction. Ceci a une période, ces ondes de relais à période de 60 secondes qui sont sensibles à environ 100 km de profondeur, 80 à 100 km de profondeur, ce qui est indiqué par-dessus cette carte tomographique qui montre bien les vitesses très lentes le long de la ride et en arrière des arcs insulaires. On voit la direction de l'axe rapide de l'anisotropie azimutale des ondes de surface qui est bien perpendiculaire ici, qui est bien dans la direction de la plaque, en fait, proche de la... Donc, dans le Pacifique, donc qui confirme encore une fois d'une manière différente toutes ces observations. Alors, bon, tout ceci, c'était donc pour les ondes P et pour les ondes de surface. Pour les ondes S, il y a biréfringence, donc ça se complique un peu ou c'est un peu différent. Quand vous avez une onde qui se propage dans un milieu anisotrope, qui arrive dans un milieu anisotrope, une onde S, elle va se séparer en deux ondes qui vont se propager, qui vont être orthogonales l'une à l'autre, dans deux directions différentes qui dépendent de ce milieu anisotrope, et qui vont se propager à des vitesses différentes. Donc ensuite, si vous observez ces ondes à la sortie de ce milieu anisotrope, vous allez les observer décalées, hein, décalées dans le temps, d'un certain décalage en temps, ici delta T, qu'on peut relier à l'épaisseur de la zone anisotrope traversée et à la différence des vitesses entre les vitesses rapides et les vitesses lentes. En mesurant ce temps de propagation, ça va vous donner des informations sur sur les caractéristiques de la zone anisotrope traversée, Il y a bien sûr des incertitudes parce qu'on a ici le produit de la distance parcourue L et du pourcentage de vitesse anisotrope. Et donc, il faut soit connaître l'épaisseur de la zone anisotrope pour en déduire l'amplitude de l'anisotropie, soit l'inverse. Hein, mais on ne peut pas déterminer les deux à la fois. Ou du moins, il faut un grand nombre d'autres informations. Alors, dans le manteau supérieur, on étudie aussi ce qu'on appelle le splitting, donc la biréfringence des ondes SKS. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est aussi important pour l'étude du manteau inférieur. Ici, je note qu'est-ce que c'est que ces ondes SKS. C'est des ondes qui partent d'une source, elle est là la source, qui plonge profondément dans le manteau sous une forme de onde S, qui, à l'arrivée à la limite noyau-manteau, sont converties en onde P, hein, donc c'est la partie K, puis de nouveau à la limite noyau-manteau de l'autre côté, du côté de la station, elles sont reconverties en onde S, hein, donc S, K, S. Dans le noyau, elles se propagent sous forme d'onde P, il n'y a pas d'onde S dans le noyau liquide. Et ici, donc, vous avez l'onde SKS principale. Ce sont des ondes presque verticales, donc à la source et à la station. Il existe aussi, elles sont suivies d'autres ondes qui, comme SKKS, peuvent se réfléchir une fois à l'intérieur de la limite noyau-manteau. Et pour comparaison, vous avez ces ondes, ce couple d'ondes qu'on a déjà pas mal étudié, l'onde S et l'onde SCS réfléchies, qui ne pénètrent pas dans le noyau, donc qui sont réfléchies du côté du manteau sur la limite noyau-manteau. Et l'intérêt d'étudier l'onde SKS, c'est qu'au moment de la conversion en onde P, l'onde va être polarisée donc comme une onde P, ici, et quand elle va se reconvertir en onde S, elle sera nécessairement polarisée dans la direction radiale. Il n'y aura pas de composante dans la direction transversale. Donc, l'onde S, ici, vous avez un référentiel, donc composante verticale. Composante radiale, c'est dans la direction, c'est dans le plan vertical contenant la direction de propagation, et transversale, donc aussi dans le plan horizontal, mais perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, l'onde SKS, normalement, vous ne devriez l'observer que sur la composante radiale et peut-être un peu sur la composante verticale à cause de l'inclinaison du ray, mais vous ne devriez rien voir sur la composante transversale. En fait, on observe très couramment une énergie sur la composante transversale. Donc ça, c'est un exemple. Ici, vous avez la composante radiale, les trois composantes, donc verticale, radiale et transversale, et l'onde SKS, qui, si le milieu était isotrope, vous devriez l'observer uniquement à sa sortie, ici, du côté de la station, même s'il se passe quelque chose du côté de la source, tout ça est oblitéré ou effacé par le passage dans le noyau, et vous ne devriez l'observer que sur la composante radiale. Mais, en fait, vous voyez ici cette énergie sur la composante transversale qui est assez forte, et c'est une observation tout à fait courante. Après, vous avez l'onde SKKS, ici, qui est très faible, et puis l'onde S-diffractée qu'on observe, dans ce cas, sur les trois composantes. Et vous voyez non seulement de l'énergie sur la composante transversale, mais aussi vous voyez un décalage entre ce que vous voyez sur la composante radiale et sur la composante transverse. Et ceci, on peut l'expliquer de manière très simple par la présence d'anisotropie dans le manteau supérieur. Alors, pourquoi dans le manteau supérieur ? Bon, déjà, ça doit être du côté de la station. Et ensuite, on étudie des ondes SKS qui proviennent de directions très différentes à la même station et on en calcule l'effet moyen. Et cet effet moyen doit être rapporté à la région près de la station, donc les derniers, disons, 300 km près de la surface. Il y a peut-être une petite contribution de la partie plus profonde du manteau, mais quand on fait ces études moyennes, on est pratiquement sûr. Enfin, elles sont très cohérentes, les résultats sont vraiment très, très bien contraints et indiquent la présence, encore une fois, d'anisotropie assez forte dans le manteau supérieur. Alors, bon, par contre, donc voilà, donc ça c'est dans le manteau supérieur. Mais maintenant, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est vraiment le manteau inférieur. Alors, je ne vais pas passer du temps sur le manteau moyen, pour lequel quelques études ont montré qu'en fait, il est en moyenne plutôt isotrope. Par contre, quand on arrive près de la D-seconde, dans la D-seconde et près de la limite noyau-manteau, on s'aperçoit qu'il y a des observations qui suggèrent la présence d'anisotropie. Alors, comment le voit-on? Donc, la première suggestion de ceci a été faite dans cette étude de Vinick et al. En 1989 sur des trajets entre le sud-ouest Pacifique et le nord-est de l'Amérique du Nord, ce qui sont des trajets pour lesquels, ici on compare donc l'enregistrement sur la composante longitudinale ou radiale, c'est la même chose, et la composante transversale. Et vous voyez l'onde SKS et l'onde SKKS ne présentent aucune énergie sur la composante transversale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement des particulaires. Donc, si vous combinez dans le plan horizontal, vous combinez l'amplitude sur la composante transverse et radiale, vous allez avoir un vecteur, et ce vecteur est bien dans la direction longitudinale, il n'y a pratiquement pas d'énergie dans l'autre direction. Et ceci est une conséquence du fait que cette direction particulière est dans la direction rapide de l'axe rapide de l'anisotropie azimutale dans le manteau supérieur. Donc vous n'allez pas observer dans cette direction de l'axe rapide, et d'ailleurs dans la direction perpendiculaire aussi, on n'observe pas de splitting, on n'observe pas de biréfringence. Donc on est assuré dans cet enregistrement que l'effet de l'anisotropie dans le manteau supérieur est minimisé. Par contre, ce qu'on observe pour l'onde diffractée, donc l'onde qui maintenant se propage le long de la CMB, c'est qu'il y a une énergie importante, relativement importante, sur la composante longitudinale. Or, on est à des distances très élevées, on est à distance épicentrale de 117 degrés, et dans un modèle moyen de Terre, comme le PREM, on s'attend à ce que l'énergie SV est déjà disparue, qu'elle ne se propage pas aussi loin. Ceci est dû au fait que l'onde SV perd de l'énergie vers le noyau lorsqu'elle se propage le long de la limite noyau-manteau, alors que l'onde SH, elle, reste dans le manteau puisque il n'y a pas de conversion possible de ce cisaillement horizontal vers le noyau liquide. Donc, si on observe cette énergie sur la composante transversale, en plus avec un mouvement particulier elliptique qui indique un décalage dans le temps entre les deux composantes, ceci fait penser à une structure très particulière. Et donc, ici, c'est un autre exemple du même type, où on n'a pas grand-chose ici provenant du manteau supérieur, mais on a de l'énergie et un décalage par rapport aux ondes SH. Et donc, ceci fait penser à deux possibilités, soit des vitesses très lentes, beaucoup plus lentes que le modèle moyen, ce qui est d'ailleurs le cas dans cette région-là, à la base du manteau le long de ce trajet, soit la possibilité d'anisotropie transverse. En tout cas, c'était la première observation qui a donc donné lieu à un grand nombre d'études. Ces mêmes auteurs ont regardé de plus près beaucoup de nombreux événements, ont donc pu quantifier ce genre d'observation, en particulier par sommation de traces pour voir la moyenne de la comparaison entre l'énergie SH et l'énergie SV et le décalage ici estimé à environ 3 secondes. Et donc une modélisation a permis de montrer en particulier la comparaison des amplitudes des ondes ici de type SKS, donc ici SKKS par rapport à l'onde SH, comparé à l'énergie SV rapportée aussi normalisée ici par l'onde SH. Vous voyez une très, très bonne corrélation entre l'amplitude des ondes SKS et des ondes SV, et par contre pas de corrélation entre SH et SV. Alors, ça c'est encore un peu compliqué, mais ça indique que si c'est de l'anisotropie, le type d'anisotropie est plutôt de l'anisotropie transverse, parce qu'il n'y a pas de couplage entre l'onde SH et l'onde SV. Bon. Ceci, c'est pour dire, voilà une étude très préliminaire dans les années 90, montrant qu'on pourrait difficilement expliquer ces données par simplement une diminution des vitesses à la base du manteau. Donc ici, avec les rapports d'un certain nombre de petits modèles qui ont été faits et les modèles qui conviennent. Donc ça, c'est un modèle de référence, IASP-91, donc un modèle de Terre isotrope de référence, et les modèles qui conviennent avec leurs vitesses différentes suivant SH et suivant SV. Il y en a deux modèles différents qui pourraient faire l'affaire. Et donc tout ceci sur la base des rapports spectraux entre les observations sur les composantes SH et les composantes SV. Donc la discussion, à partir de ce moment-là, s'est concentrée sur savoir est-ce qu'on observe de l'anisotropie radiale ou aussi de l'anisotropie azimutale, puisque si ce n'est que de l'anisotropie radiale ou transverse, l'anisotropie transverse ou radiale, isotropie transverse, je devrais dire, je mélange toujours ces termes, ça pourrait être interprété en termes de couches d'anisotropie extrinsèque. Par contre, une anisotropie azimutale pourrait plutôt faire penser à de l'anisotropie intrinsèque. Mais bien sûr, on est dans le manteau inférieur, donc il y a la complication qui est qu'on ne connaît pas encore non plus très bien les propriétés, les paramètres cristallins des cristaux, même la composition, et puis bien sûr tout ce qui est des plans de fluage, des plans de glissement préférentiels. En tout cas, depuis donc une quinzaine d'années, depuis 20 ans en fait, de nombreuses études ont confirmé la présence d'anisotropie à la base du manteau. Ici, ce sont différents exemples. On utilise soit les ondes diffractées, donc comme dans les premières études de Winnick, soit aussi les ondes SCS et les ondes S. Donc ici, vous avez des exemples en haut, des exemples où on observe sur SCS, donc une SCS polarisée horizontalement, plus rapide que celle polarisée verticalement. Donc on décompose l'onde S en SCS en ces deux composantes de polarisation différentes. Ici, c'est l'inverse, où on observe SCS sur SH est plus lent, un peu plus lent que celle sur SV. Donc on a les deux. Cette observation prédomine. En général, on a SH supérieur à SV. Et ici, c'est sur les ondes S, donc aussi un décalage entre les deux ondes, dans un sens ou dans l'autre. Et ici, sur l'onde S diffractée, dont je vous ai déjà montré quelques exemples. Donc, voilà ces exemples. Donc, ensuite, bon, je passe, ça, c'est l'étude qui permet, comment on détermine les paramètres de l'anisotropie, en particulier l'anisotropie, dans l'hypothèse de l'anisotropie transversale. On a des observations. Ça, c'est les observations dans la direction radiale et la direction transversale. Et ensuite, on va essayer divers modèles d'anisotropie, donc qui vont être manifestés par c'est plutôt l'anisotropie azimutale, pas l'anisotropie transverse, par la direction de l'axe rapide et le décalage. Et donc on va avoir différents modèles et les prédictions de ces modèles vont nous aider à corriger les données. Et lorsque les données, on aura fait disparaître l'énergie sur la composante transversale, on pourra considérer qu'on a trouvé un modèle qui convient. Et donc, ça s'exprime avec des diagrammes comme ça, en fonction du delta T, donc du décalage entre l'onde sur la composante radiale et sur la composante transversale, et l'angle de la direction de la vitesse rapide. Et en général, ça donne des contours et on trouve une solution. Ceci, en général, non seulement basé sur un enregistrement, mais si possible sur plusieurs enregistrements avec une bonne distribution azimutale. Et c'est là qu'est le problème. Dans la zone des secondes, on n'a pas toutes les données qu'on souhaite. Vous avez vu qu'on a en général pas mal de... de trajets comme ça, par exemple, dans ce sens-là, hein, de sud-ouest Pacifique, où il y a beaucoup de séismes, vers l'Amérique du Nord. Mais on n'a pas, par exemple, les trajets perpendiculaires ou des trajets dans cette direction-là. On a très peu, parce que si vous regardez les grands cercles qui passent dans cette direction-là, les distances entre les sources et les stations sont trop grandes pour observer l'onde diffractée. Donc on a un problème, et suivant différentes géométries, sous l'Afrique c'est la même chose, enfin un peu dans le monde entier, on a du mal à avoir des régions où on a une résolution azimutale suffisante pour pouvoir vraiment étudier de manière détaillée. La seule région où on commence à avoir, depuis quelques années, grâce au réseau très dense en Amérique du Nord, un peu de résolution azimutale, c'est l'Amérique centrale, avec une grande, pas mal de séismes en Amérique du Sud et aussi dans les îles Sandwich ici, observés et en Amérique du Nord, et donc qui traversent cette région. Alors, je continue. Voilà. Ceci dit, donc, déjà en 98, un grand nombre d'études ont montré la présence possible d'anisotropie de type radial, et donc les quelques modèles donc de différence de quelques pourcents entre les vitesses SH et les vitesses SV dans différentes régions. Ceci a été confirmé par la tomographie. Donc ici, vous avez une tomographie globale en VS, donc vitesse des ondes S, un des modèles, hein, où on a vu qu'ils se ressemblaient tous avec leur anneau donc à la base du manteau, ici à 2800 km, avec des vitesses, cet anneau de vitesse rapide autour du Pacifique et les deux superpanaches sous le Pacifique et sous l'Afrique. Et nous avons, il y a deux études, une d'un de mes étudiants et une autre d'un groupe à Harvard, qui a fait un modèle non seulement de vitesse isotrope, mais aussi d'anisotropie radiale dans le manteau global, au niveau global. Et voici ce qu'on trouve. Ici, maintenant, donc, ça, c'est ce fameux paramètre XI qui détermine la différence entre les vitesses SH et les vitesses SV, et là où elles sont. SH est supérieur à SV est indiqué en bleu et SH inférieur à SV est indiqué en rouge. Alors, ça fait pendant, mais pas complètement, à cette carte isotrope. Et en fait, c'est en assez bon accord avec les études locales qui sont indiquées ici par les lettres. Là où il y a eu des études locales basées sur les ondes diffractées ou les ondes SCS, on trouve en général, dans toutes ces régions-là, SH supérieur à SV. Et dans la région centrale du Pacifique, et peut-être aussi ici dans l'océan Indien, on a quelques observations de SV inférieur au SH ou des observations invariables, un peu SH supérieur à SV, un peu SH inférieur à SV. Donc il semblerait que ces observations soient vraiment globales, à la base du manteau, avec une relation où vous avez SH supérieur à SV dans l'anneau autour du Pacifique, et dans les superpanaches, plutôt SV supérieur à SH. Il semblerait aussi, je vous l'ai déjà dit, donc, que l'anisotropie est forte, ça c'est en fonction de la profondeur, l'amplitude de l'anisotropie de ces deux modèles existants, donc tomographiques, donc de ce facteur XI. Hein, 1, si XI est égal à 1, c'est une structure isotrope, et vous voyez que vous avez une anisotropie radiale très forte dans la couche limite près de la surface, avec essentiellement, préférentiellement SH supérieur à SV. Et vous avez peut-être une zone aussi avec prédominance SH supérieur à SV à la base du manteau, mais seulement l'un des deux modèles semble l'indiquer. Donc c'est encore peu contraint. D'autres modèles récents proposent aussi. Ah oui, et donc dans le reste du manteau, par contre, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une anisotropie importante. Hein. Donc, on peut considérer que le manteau moyen est plus ou moins isotrope du point de vue sismique. Et ceci est important aussi, parce que ça colle assez bien avec l'idée qu'on se fait des compositions. Ceci, c'est une dernière, un dernier modèle qui est un modèle récent, où, encore une fois sous le Pacifique, où ces auteurs, eux, ici encore, ça c'est le modèle de vitesse, à la base du manteau, c'est une inversion 1D d'un grand nombre de données, inversion anisotrope juste pour la base du manteau, semble indiquer la présence d'anisotropie avec SV supérieur à SH, donc déviation par rapport à l'isotropie donc négative, un peu au-dessus de la zone de des secondes. Donc ça ferait penser qu'on est ici dans une zone de mouvement ascendant, hein, donc les mouvements descendants étant dans l'anneau autour du Pacifique, les cimetières des plaques, si vous voulez, et puis bon, bien sûr, ça remonte il faut que ça remonte pour conservation de masse, et ça remonterait donc dans les superpanaches. Et si vous avez beaucoup si l'écoulement est surtout vertical, vous attendez à avoir justement cette présence d'anisotropie de ce type-là, hein, avec SV supérieur à SH. Si tout se passe suivant la même façon que dans le manteau supérieur, bien sûr. Alors ça, c'est une extrapolation importante. Pour conclure, l'anisotropie sismique est observée dans la D-seconde, mais pas dans le reste du manteau inférieur. Ceci indique des différences fondamentales dans la composition ou le mode de déformation à la base du manteau. L'interprétation est limitée, comme je vous l'ai dit, par le manque d'informations sur un certain nombre de paramètres très, très importants. Alors, pour finir, qu'est-ce que pourrait être l'origine de cette anisotropie dans la D-seconde ? Est-ce que ça pourrait être une anisotropie extrinsèque, un empilement de couches et de propriétés différentes, ou bien un alignement préférentiel d'inclusion fluide ? Ceci ne peut pas être exclu. Ici, je vous donne un dessin, mais je n'ai pas le temps de l'interpréter. C'était ces diagrammes dont je vous avais expliqué précédemment. En tout cas, ce qu'ils indiquent, c'est que vous pouvez avoir, suivant le type d'alignement et la forme de ces inclusions, vous allez avoir une anisotropie extrinsèque de type différent. On ne peut pas, à l'heure actuelle, exclure cette possibilité. Mais par contre, il y a quand même des indications assez importante, comme quoi une partie de cette anisotropie, du moins, pourrait être d'origine intrinsèque. Mais alors, pour aller plus loin, et pour interpréter l'anisotropie en termes de... Vous voyez où je veux en venir, avec la pérovskite et la post-pérovskite, on va montrer que la post-pérovskite, au point de vue microscopique, est une anisotropie plus forte que la pérovskite, et surtout elle se déforme plus facilement et donc va avoir tendance à s'aligner plus facilement dans les écoulements, du moins avec les informations qu'on a jusqu'à présent. Mais il faut quand même noter que pour interpréter l'anisotropie sismique en termes d'anisotropie intrinsèque, il faut connaître la structure cristalline et l'élasticité des composants de la D-seconde au niveau microscopique, premier élément. Deuxièmement, les systèmes de glissement dans un champ de contraintes macroscopique. Et ensuite, le champ, bien sûr, une fois qu'on connaît ces deux, il faut mettre ça dans un champ de déformation. Donc il faut connaître le champ de déformation, il faut avoir une idée de la dynamique dans le manteau qui peut provoquer le champ de contraintes et de déformation et activer les systèmes de glissement qui vont agir. Alors, je vais bientôt devoir m'arrêter, mais j'ai encore 2 minutes, donc je vais continuer. Qu'est-ce qu'on sait sur la structure cristalline, donc le premier point, hein, et les propriétés élastiques de la D-seconde. Pour la pérovskite, qui est la phase la plus abondante, on pense, dans le manteau inférieur, elle a une structure orthorhombique qui est décrite par 9 constantes élastiques, donc c'est assez compliqué. Ici, c'est une représentation de la structure de la pérovskite, et on peut calculer par des méthodes ab initio les propriétés élastiques, et on trouve ici ce sont ces diagrammes que je vous ai montrés qui suivant les calculs, suivant les modèles, ici c'est deux modèles différents. Vous voyez qu'il y a encore il y a un accord relativement bon, encore qu'il y ait des petites différences. En tout cas, les vitesses lentes le long, les vitesses P lentes le long de l'axe 1, plus rapides le long de l'axe 2, moyennes le long de l'axe 3, au milieu ici. Et pour les ondes S aussi, il y a des c'est pas en accord complètement, mais ça se ressemble. En tout cas, le maximum de d'anisotropie est de l'ordre de 13 à 20% sur ces calculs estimés, donc, qui est important, mais qui n'est peut-être pas suffisant. Par contre, la structure de la post-pyrovskite, tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'elle est plus anisotrope que la pyrovskite. On peut le deviner en regardant simplement la structure cristalline avec ses alignements, ses plans de ions de magnésium. Hein, et effectivement, quand on fait des calculs, alors ici vous avez les résultats des calculs théoriques et ici les résultats des calculs expérimentaux pour les ondes P et pour les ondes S, vous voyez des différences importantes encore entre les résultats des calculs et aussi les résultats expérimentaux. Ces résultats expérimentaux seraient en meilleur accord avec ce calcul théorique-là, avec quand même quelques différences, mais tous indiquent une anisotropie très forte avec une différence entre les vitesses rapides et lentes S, les vitesses S rapides et lentes de l'ordre de 42%. Donc on peut imaginer qu'avec une anisotropie aussi forte, même si tous les cristaux ne sont pas alignés, vous allez pouvoir tout de même observer de l'anisotropie macroscopique, donc observable par les ondes. Et ensuite, il y a aussi, il ne faut pas oublier l'autre composant majeur du manteau inférieur qui est le ferropériclase, qui lui a une structure cubique et pour lequel il y a une indication aussi d'anisotropie événement assez importante, mais et relativement bon accord pour ce qui est des directions avec des amplitudes un peu différentes suivant les auteurs. Mais disons que ça c'est ici, on compare le calcul théorique à haute température, je crois, oui, avec un résultat expérimental, mais calculé à la température à 0 Kelvin. Donc, c'est 0 Kelvin. Je pense que c'est plutôt 0 degré Celsius. Mais voilà. Bon, ensuite, donc, je vais arrêter là, mais je vais vous dire la suite. Hein. On faudra regarder aussi. Donc, le deuxième point, c'est les systèmes de glissement. Il ne suffit pas de connaître les... la structure cristalline, mais il faut encore connaître les plans de glissement préférentiels. Et donc, je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà 17 h. Voilà. Donc, c'est compliqué. Merci.